Mon cher Rabbeinu a parlé avec Paro et qui lui a dit, qui lui a ordonné d'une certaine manière de faire sortir, laisser sortir les fils d'Israël de Mitzraïm. Il lui a dit que Hachem considérait le clan d'Israël comme son premier-né, Béni Bechori Israël. Et c'est à ce titre-là que je veux que tu les laisses sortir. Et il a dit, si tu les laisses pas sortir, alors je tuerai tes premiers-nés à toi aussi. Donc le clan d'Israël est présenté comme Béni Bechori Israël. Il faudra savoir effectivement pourquoi cette dénomination. Israël n'est pas le premier peuple créé. En quoi est-ce que qu'est-ce que ça veut dire que Israël est Bechori, il est mon Bechor? Rashi explique que Bechora, le Béni Bechori, c'est la Shon Gedoula. Umidrasho kan Chatam Akadosh Baruch Hu al Mechirat Abechora Shilakach Yaakov Me'esav. Et Rashi dit, dans le Midrash, on dit que ici, quand Hachem présente Israël, c'est-à-dire les descendants de Yaakov, comme étant Bechori, il a validé l'opération que Yaakov a faite en achetant la Bechora à Esav. Comme si Hachem dit, oh, OK, on entérine que Israël est vraiment le Bechor. Pas le Bechor de Yitzhak, mais le Bechor, il est le Bechor presque dans l'absolu, quoi, la notion de Bechor. Et donc, Rashi nous dit que c'est comme si on disait, c'est une certaine forme de royauté, de grandeur. Lorsque Yaakov a acheté la Bechora, le pasouk dit Vayazed Yaakov Nezid Vegomer, Vayomer Esav El Yaakov Alite Nina Mina Adom Adom Azeh. Et là, et de là, et ils en sont venus à Mechirat Bechora le Yaakov, la vente de la Bechora que fait Esav. Esav vend sa Bechora à Yaakov. Pour ses Adom à Adom Azé, ce rouge-là, c'est-à-dire ces fameuses lentilles que Yaakov était en train de cuire pour c'était le repas qu'il préparait pour son père, puisque son père, à ce moment-là, il est Avel. Et c'est l'habitude qu'à Avel, on lui donne quelque chose qui n'a pas de bouche, qui est rond, ou des œufs, ou des lentilles en l'occurrence. Donc c'est ça qu'il était en train de préparer. Et Sav, il était tellement épuisé par ce qu'il avait fait, qu'il n'est même pas capable d'appeler ça des lentilles. Il appelle ça le rouge, là. Adom, Adom Azé. Au point que ce Adom est devenu quasiment un des noms de Esav Edom. Alors Esav, quand Yaakov lui a proposé de lui vendre les lentilles contre le droit d'aînesse, alors Esav a dit, Iné anochi olech lamut, moi je vais mourir. Lamazeli Bechora, qu'est-ce que j'ai à faire de la Bechora? Et Rashi explique qu'est-ce qu'il était en train de dire. Chez Oto Nezid, Ayachel Adashim Adumot, que ce plat-là qui était en train de cuire, c'était des lentilles rouges. Et ce jour-là, c'était le jour de la mort d'Abraham. Et Yaakov a cuit des lentilles pour la Soulat Avra de Havel, de son père. Et finalement, ce qui était en fait normalement le repas d'Avel ou de son père, c'est devenu un prix, un moyen de paiement pour la Bechora. Au lieu de la don de donner ce plat à manger à son père, il l'a vendu à Essav. En fait, on est un petit peu mal à l'aise quand même, dans la mesure où quelque chose qu'il avait préparé pour la mitzvah de Soudat Avra pour son père, il l'a utilisé pour autre chose, comme moyen de paiement. Alors il faut dire ici que, bien entendu, il y a là quelque chose de très important qui est dit au sujet justement de la mitzvah de cette Soudat Avra qu'on fait pour l'endeuillé. Bien sûr que préparer ce repas pour l'endeuillé, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle Gmilut Chassadim. Bon, ça veut dire c'est de attiquer du chesed, dispenser du chesed à quelqu'un. Mais en vérité, il y a là un point très important dans la définition et dans la fixation de la notion d'Emouna. C'est que, bien que on soit à ce moment-là confronté à la Midat Hadin, quand il y a quelqu'un qui meurt, c'est une manifestation a priori de la Midat Hadin. C'est-à-dire qu'on est confronté avec la condition humain, la condition de l'être humain qui est un mortel. Mais néanmoins, cette Midat Hadin-là, elle est perçue comme quelque chose en soi. Elle pourrait être perçue comme quelque chose en soi, mais on va l'interpréter un peu autrement. On va l'interpréter en disant que c'est quelque chose, c'est un sous-produit en quelque sorte, ou une autre façon d'exprimer la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, en fait, ce sur quoi le monde tient. Le monde tient parce que telle est la volonté d'Hachem. Or, a priori, la volonté d'Hachem, c'est de pratiquer enfin, de la générosité, de faire le bien. Hachem n'a pas créer un monde auquel il veut faire du mal. On dit Olam Chesed Ibané. Le monde va être construit sur le Chesed. C'est-à-dire, par exemple, l'idée de sanctionner une faute. C'est en quelque sorte, c'est quelque chose qui est une conséquence. C'est pas quelque chose qui est là a priori, mais c'est bien une conséquence de la faute. Mais la racine de la création, de toute la bria, et aussi son but, c'est-à-dire la situation à laquelle la création va revenir à son état initial à la fin de l'histoire, quoi. On a modifié, puis ensuite ça revient à la citation du départ, c'est une anaga, une façon de gouverner qui est kulo hatov ve'ameitiv. C'est entièrement faire du bien, c'est le bien et faire du bien. Et la promesse qu'on utilise et cette phrase qu'on dit aux endeuillés, Umacha Hashem dima me al kol panim, que Hashem va effacer toute larme de tous les visages, il n'y aura plus de larmes sur les visages. Ou de même qu'on dit dans la Gemara que Vaya Hashem le Melech al kol haaretz, Bayom ahu yehi Hashem echad shmo echad. Alors la question que la Gemara elle demande, est-ce que maintenant, c'est pas vrai? Pourquoi? Ben, Yom Ahou y est. Et Ayom, est-ce qu'il n'est pas Echad? Alors, Gemara elle dit, Amar Rabbi Acha bar Chanina, lo ke olam hazeh haolam haba. Haolam hazeh, dans notre monde ici, al psurot tovot, sur les bonnes nouvelles, on dit Baruch atov ve'ametiv, et sur les moins bonnes, les raot, on dit Baruch dayana emet. Mais dans l'olam haba, il n'y aura qu'une seule bracha, atov ve'ametiv. Ça veut dire que la manifestation de chesed qu'il y a dans le fait de donner à manger à l'endeuillé, parce que souvent l'endeuillé, il pourrait à ce moment-là, il n'a pas faim, il n'arrive pas à réagir, et il faut l'obliger à manger, mais il faut préparer à manger. Quelqu'un qui a été touché par la maladie Midat Hadin, donc il faut donner à comprendre. Installer vraiment cette émouna par le biais de ce premier repas qu'on donne au Havel, en lui montrant que le monde est un monde de chesed. Lui, il a l'impression que c'est un monde de din. Il est frappé par la Midat Hadin. C'est-à-dire que il y a dans le monde une démarche qui est la tentative d'essayer de ressembler à la façon dont Hachem gère le monde avec le chesed, et nous on essaie de faire la même chose. Et puisque manger, ça sert en réalité à renforcer le lien entre le corps et l'âme, entre gouf et nefesh, c'est-à-dire d'assurer la vie, quoi. Que le lien entre les deux continue d'exister, et que d'une certaine manière, ça s'oppose complètement à la manifestation de la Midat Hadin, à laquelle l'endeuillé est confronté, et justement la manifestation d'une séparation du nefesh et du gouf, en préparant cette soula d'Abraham, on fixe cette émouna pour que le fait qu'il y ait de la mort dans le monde, c'est quelque chose de provisoire. Ce n'est pas essentiel au monde. Parce que le fondement vrai du monde, ce sur quoi le monde est construit, c'est Chesed, le Chesed et la vie, et pas la mort. Alors, cette façon de développer, de vivre avec cette émouna-là, elle entraîne, elle nous donne la force aussi de regarder la grandeur du dat. Parce qu'une des difficultés, une des différences qu'il y a entre la grandeur et la petitesse, en fait, ça se dit dans la halakha, chez Tiknu Chachamim, Kinyan le Katan. Hazal ont inventé, en quelque sorte, ils ont instauré qu'un Katan peut acquérir. Mais c'est seulement vrai dans les Kinyanim qui sont perceptibles, que concrètement le comprend. C'est-à-dire, quand on fait un geste, Meshicha ou Agba'a, physiquement, il se passe quelque chose. Donc le Katan, il voit qu'on fait quelque chose se passe. Il voit que un objet passe de la main à la main. Il voit que l'objet est entré dans son rechout, il est dans sa main. Par là, on veut dire qu'on exclut des kinyanim comme un kinyan souda qui est symbolique, où il se passe rien, on voit pas, les choses ne circulent pas. Alors on sait que Yaakov et Esav se sont partagés le monde d'une certaine manière, que Esav a pris Olam Hazeh et Yaakov, il a pris Olam Haba. Esav a pris Olam Hazeh avec tout ce qu'il contient et tout le côté beaucoup plus concret que le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est quelque chose de flou, alors que Olam Hazeh, c'est très concret. Et comme c'est entièrement c'est seulement le Olam Hazeh qui est le chélek de la part de Essav. Alors, avec son niveau de date, ce qu'on appelle date de Katnout, c'est-à-dire le raisonnement ou la réflexion au niveau bas, disons, comme c'est marqué dans la nevoua de Ovadia, qui est une nevoua sur Essav, parce qu'Ovadia lui-même est un converti venant d'Essav. Là-bas, il dit, Bagoïm. Tu es un petit parmi les peuples. Donc lui, Esav, il prend la mort comme quelque chose de concret et comme si c'était quelque chose de définitif. La condition humaine est une condition de mortelle et elle est terminale. Ça veut dire qu'il n'y a rien après. Bon, la mort après la mort, il n'y a rien. C'est ce qu'il dit. À Jacob, il dit, on offrit au Lechlamout, le mal libchora. La Bechora, c'est quoi? D'après ce que toi tu m'as dit, Jacob, c'est quoi? C'est la Avoda, la Bechora, tout ça, c'est basé sur un monde qui est le monde d'en haut, qui va se dévoiler dans le futur. C'est-à-dire dans Olam Haba, dans ton monde à toi. Et ça dépend de ce qu'on appelle le Gadlout HaDaat, c'est-à-dire un Daat qui est capable de penser haut. Et le Bechor, justement, est celui auquel, a priori, au départ, la Avoda a été confiée. Mais justement, la avoda, c'est quelque chose qui exige une reconnaissance d'un deuxième monde, en quelque sorte, qui n'est pas devant nous immédiatement. Et c'est donc, par exemple, contraire à la position qui est pour nous hérétique. Les Tzoukim, les Sadducéens, qui disaient En olam, ela echad. Il n'y a qu'un seul monde, le monde dans lequel nous sommes. Il n'y a pas d'autre monde, il n'y a rien d'autre après. Mais toute notre avoda, c'est une avoda qu'on utilise min ha'olam ve'ad ha'olam. C'est une avoda qui est faite dans ce monde, qui a des effets dans l'autre monde. Le Maharal, dans Netzach Israël, il dit que, il fait remarquer cette histoire que je vous ai déjà souvent racontée, que moi j'ai entendue chez Rav Yitzhak Koutener, c'est-à-dire beaucoup plus tard, que toutes les lettres du mot Bechor, elles veulent dire deux. Deux dans les unités, bet, deux dans les dizaines, kaf, deux dans les centaines, resh. C'est-à-dire, en fait, le monde du Bechor, c'est un monde dans lequel il y a un deuxième monde. Y a un deuxième monde après celui-ci. Et comme ça, on peut comprendre, en fait, le Midrash qui dit que quand Esav a entendu qu'Avraham Avinu était Niftar, il n'a pas supporté du tout. Il a dit quoi? Même ce vieillard, la Midatadine s'est attaquée à ce vieillard? Bon, c'est pas possible. Miyad Kafar ve'amar. L'aide d'In ve l'aide d'Ayan. Il a dit, bon, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de juge. Et les Mefarshim s'étonnent sur ce Midrash. Qu'est-ce qu'ils pensaient, savent, que Avraham allait vivre éternellement? Pourquoi il réagit comme ça? Parce qu'Avraham est mort. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que d'après le date des saves, d'après la compréhension des saves de ce que c'est que le monde, ce monde. Alors, lorsque l'homme est confronté à la mort, concrètement, effectivement, donc ça veut dire que l'action sur son nefesh, elle est complètement différente de ce qu'il avait expérimenté jusqu'à présent. Tout à coup, voilà, son nefesh. Chazal disent que le Chacham, il voit le nolad. Il voit les choses dès qu'elles naissent, il anticipe tout ce que ça va donner. Chez lui, c'est quasiment concret. Celui qui sait les choses qui sont là, il n'est pas spécialement Chacham. Bien entendu que Esav savait qu'Abraham allait mourir. Mais quand il a vu cette Midat Hadin, alors il a dit, l'Et Din Belet Dayan. C'est-à-dire, de l'avoir vu concrètement fonctionner cette Midat Hadin, c'est ça qui l'a amené à être Kofer Beikar, effectivement, de nier les choses, les valeurs essentielles. C'est-à-dire que il pensait que le monde entier est digne et il n'y a rien que de la cruauté finalement. Et là-dessus, dans le Midrash dit, ce Midrash là-bas, il ramène un passage dans Yirmiya qui dit Al tivku l'emet. Ne pleurez pas au sujet du mort. Bachou, bachou, laolech. Pleurez, pleurez pour celui qui est en chemin. C'est-à-dire, Al tivku l'emet, c'est Abraham. Parce qu'il n'y a pas de raison de pleurer, parce qu'il y a Triat HaMetim. Lui, il est vivant, en fait. Aval Tivku, pardon, mais pleurer, le Holech, c'est-à-dire celui qui dit Ani Holech Lamout, je suis en chemin pour mourir. À son sujet, il y a lieu de pleurer. Parce qu'effectivement, lui, il pense. Et donc, c'est ce qui lui arrivait, puisque c'est comme ça que il veut ce monde-ci. Donc, la Bechora, c'est quelque chose qui vient installer l'idée que la Midat Adin n'est que quelque chose de provisoire. Ce n'est pas quelque chose de définitif. La Bechora, elle fixe, elle dit que il faut pratiquer la Avoda qui mène à Triat HaMetim. Donc quand il a vendu la Bechora, Yaakov lui a dit, Michra Kayom, vends-moi comme aujourd'hui, de façon absolument claire. C'est-à-dire que quand Yaakov parle à Esav, il lui dit Kayom. C'est-à-dire que ce soit aussi clair que le jour. Que ce soit absolument clair que tu me l'as vendu. Prends vraiment conscience. Que de ce que tu me vends là. Alors, Ésaü lui a dit, Alitenina mina Adom à Adomazé. Il lui a dit, charge-moi comme on remplit un chameau. Charge-moi de ce rouge-là. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas manger tout seul, il voulait qu'on lui enfourne quasiment. Adom, le rouge, c'est évidemment la couleur qui est associée au sang. C'est-à-dire quelque chose qui fait référence à Médatadine. Et lui, quand il est né, Esav, Vayetse Arishon Admoni, il est né roux, Piresh Rashi, Siman hu sheyeh shofer damim. C'était un signe que ce bonhomme-là, cet enfant, quand il va développer, il va être un assassin. Littéralement, il va être un verseur de sang. Donc, quand il dit Alitenina, mina Adom à Adomazé, Alkenka Edom, raison pour laquelle on l'a appelé Edom, ça veut dire que le din ici qui s'installe en lui, avec toute sa force, avec toutes ses règles, ce monde-ci et ce monde de Milatadine, en fait, ça se trouve chez Esav. C'est marqué que Yitzhak a dit à Esav, Al charvecha tichye, tu vivras grâce à ton épée. C'est pour ça que quand il lui a dit, enfourne-moi, donc remplis-moi. Donc c'était une partie du Maaseh Kinyan dans la Torah. C'est-à-dire qu'on a fait ici la différence entre la façon de regarder la Midat HaDin dans le monde de la Kedusha et la façon essavienne, la façon d'Essav de regarder cela. C'est-à-dire que il a mis toute la force de ce rouge-là qui est, en fait, qui représente Essav. Yaakov lui a enlevé la mida de Bechora, qui est justement, qui a juste, cette mida de Bechora, elle a comme fonction essentielle, en fait, de montrer le chesed, montrer l'éternité du monde, avec Triat HaMetim, etc. Donc ce tikkun-là, cette réparation qui est faite et qu'on fait avec la mitzvah d'Avraham, la confrontation avec la Midat HaDin pour remettre les choses et montrer que cette Midat HaDin, c'est provisoire, que la vérité, ce qui va durer, c'est le chesed qui se manifeste ici dans la Soudat Avraham qu'on prépare pour l'autre. Et c'est Yaakov qui l'a fait, c'est qui prépare ça. Et donc quand il l'a pris, ce qui avait été préparé pour la Soudat Avraham, et il le donne, il le met dans Essav, en fait. En fait, il y a pas eu une véritable changement de destination dans ce qui a été préparé. C'est juste que Yaakov Avinu, il a remis le Koach du Din à sa place, entièrement chez Esav. Et la Bchora qui fait référence au Chesed dans le monde, il l'a pris pour lui. C'est-à-dire, c'était, qu'est-ce qu'on voulait faire? La Soudat Avraham, elle est là pour limiter, dire c'est terminé, le Midat Hadin, ok, maintenant on reprend la marche essentielle du monde, c'est-à-dire le Chesed. Donc ça c'est la Soudat Avraham. Là il a fait la même chose, il a pris la Midat Hadin, le rouge là qui représente la Midat Hadin, et il l'a mis entièrement dans Essav. Et il a pris à la place pour le côté reconnaissance d'un autre monde, etc., qu'il y a dans la Avoda, donc dans la Bechora, il l'a pris, il a sorti de chez Esav. Au moment de Yetziat Mitzrayim, dans le monde, il y a cette idée que Béni Bechori Israël, que c'est les Bnei Israël qui amènent vers Triatametim. Le commencement de cette Bechora, ici, c'est où? C'est dans Vayigdelou Ha-Ne'arim. Les deux enfants, Yaakov et Esav, ont grandi. Et Yaakov a acquis la Bechora. C'est ce que dit Rashi. Rashi dit, Beni Bechori, Lashon Gdoula. C'est-à-dire, dans la notion de Bechora, il y a l'idée de la grandeur du Dat, le Dat qui est capable de penser autre chose que la finitude de ce monde, quoi, en quelque sorte. Et ça contient aussi le contraire de Anochi Olech Lamout. Pour la Bechora, c'est le contraire, puisqu'il lui dit, j'ai rien à faire de la Bechora, je vais mourir. C'est-à-dire que la Avoda, c'est ce qui nous amène à Triatametim. Et c'est pour ça que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dit à Paro, donc, Shlach et Beni, renvoie mon fils, Viavdeni, qu'il me serve. Il passe la Avoda. Et si toi, tu refuses, alors je tuerai ton fils premier-né. Parce que coller avec lui tout le processus de ce Bechor qui va mourir, en fait. Je vais le tuer, effectivement. Parce que comme il est ton Bechor, la notion de Bechora, tu la reconnais pas. J'enlève la Bechora. J'enlève la notion de Bechor. On va enlever tous les Prora, tous les Bechors du clan Israël, des Égyptiens. Ils vont tous mourir. On va supprimer la notion de Bechora de cette Égypte qui ne veut pas reconnaître la Bechora d'Israël. Qui ne veut pas reconnaître la Bechora, alors je vais annuler complètement toute la notion de Bechora qui existe chez vous, qui est la Bechora qui est au départ une relation physique, c'est le premier qui est né. Il est Bechor, ça n'a pas encore une vraie dimension de reconnaissance de du rôle fondamental. Il est né comme ça, donc il aura un certain rôle dans la famille, mais qui va pas jusqu'ici. Si on ne fait pas la avoda, si on ne voit pas la Bechora comme liée avec la notion d'avoda, alors on ne voit pas ce dépassement, en quelque sorte, de cette responsabilité qu'a naturellement un Bechor. Il est le Bechor, donc c'est lui qui est le responsable de la nouvelle génération. Il faut aller bien plus loin, quoi. C'est pas simplement responsable dans ce monde-ci, mais être capable de fabriquer quelque chose qui va ouvrir le chemin triatamétime, c'est-à-dire à l'éternité. Voilà, ça c'est une première chose. C'est un enseignement de Rav Jonathan Davis. Jonathan Davis qui est le gendre du Paradis Tzrak, Rav Yitzhak Kuttner, qui est aujourd'hui un très très grand vieillard, et qui est quelqu'un que mon maître le Rav Volbé avait pris comme la personne avec laquelle il allait discuter après que le beau-père, après que Yitzhak Kuttner avait disparu, et que Rav Volbé qui allait chez lui assez régulièrement, surtout depuis qu'il était, avant il était entièrement en Amérique, Rav Yitzhak Kuttner, il était Roshiva en Amérique. Il est venu, pour monter une yeshiva en Eretz-Israël, il habitait en Eretz-Israël aussi, et à ce moment-là, le Rav Volbé allait le voir. Auparavant, il allait voir quelqu'un d'autre, un Chassidisher d'ailleurs. Alors donc maintenant c'est visiblement une grande autorité aussi, un grand penseur. Bon. Je veux voir avec vous encore une deuxième chose. Toujours quand Moshe est allé parler avec Paro pour lui dire de renvoyer les Bnei Israël. Alors, Paro lui a dit, Re'u ki ra'a neged pnechem. Il lui a dit, voyez, il y a ra'a en face de vous. Rashi explique, Midrash Agada, Shamati, j'ai entendu un Midrash, dit Rashi, qui dit, Kochav echad yesh. Sheshmo Ra'a. Il existe une étoile, une planète, une étoile, qui s'appelle Ra'a. Resh Ainé. Et Ro'e Ani Beitzagninut Sheli. Et Paro a dit à Moshe, je vois dans mes recherches astrologiques, je vois que cette étoile, elle vient à votre rencontre dans le désert, et c'est un signe de sang et de mort. Et le Midrash dit, Vezehu Sheneemar, ça c'est ce qui a été dit beaucoup plus tard. Hachem a dit, Ayom, Hachem a dit c'était à l'époque de Yoshua, il lui a dit, maintenant ce que les Égyptiens disaient, qu'il voyait que, c'est ça que Paro a dit à Moshe, il a dit, je vois très bien que si vous sortez dans le désert, cette planète, elle vient à votre rencontre, vous allez mourir. Il va y avoir un bain de sang et beaucoup de morts. Et Paro lui dit, alors au moins ne prenez pas les enfants, etc. À chaque fois, Moshe dit, on va partir avec tout le monde. Et donc, on a ce midrash-là, construit sur un verset. Et tout le monde pose la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En mazal l'Israël. Il n'y a pas de mazal pour Israël. Qu'est-ce que la Torah nous parle d'un mazal, enfin d'une... Un mazal, c'est une planète, une étoile qui... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hazal disent qu'il a été dit à Moshe Rabbeinu, à Avraham Avinu, pardon, c'est mi staghninut shelcha, sors de ton déterminisme astral. Et donc cette contradiction-là, faut essayer de la résoudre et c'est ce que on va faire là. Alors il faut commencer par des choses qu'on a déjà beaucoup dites, que le clan d'Israël en réalité naturellement il n'aurait pas dû exister parmi les peuples. On avait vu que le clan d'Israël, il ne pouvait pas exister. Sarah et Rivka ont toutes les deux une absence d'utérus. Et ensuite, le clan d'Israël, il va être... bon, tout est chamboulé dans le plan de Yaakov qui voulait construire le clan d'Israël avec Rachel, qui finalement va le construire avec Rachel, Léa et les Shvachot. Avec une dimension, pas simplement des femmes, mais aussi des servantes, des esclaves. Et donc, avec le problème dont on a déjà parlé bon, plusieurs fois, que c'est quoi exactement leur statut à ces Shvachot? Parce que si elles ont un vrai statut d'esclaves, alors leurs enfants sont des esclaves. D'une part, et deuxièmement, Yaakov n'a pas le droit d'avoir des rapports. Lui est un homme libre, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec des esclaves. Alors, tout ça, ces interdits-là, on comprend bien que Yaakov puisse les mettre entre parenthèses si c'est nécessaire, comme il a mis entre parenthèses l'interdit d'épouser deux sœurs vivant l'une de l'autre. Ça, c'est le. Comme eux, ils n'ont pas reçu la Torah de l'extérieur, ce qui posait un problème. Quand on reçoit de l'extérieur, ça pose un problème d'obéissance. On est obligé d'obéir. Là, voilà, s'ils pensent que dans leur compréhension des choses, il faut faire autrement que ce que leur dit, en fait, cette espèce de Torah qu'ils entendent d'eux-mêmes, ils peuvent le faire. Mais il y a ça. Il y a à la fin le fait que, par exemple, Moshe, Aaron et Myriam, qui sont les dirigeants du clan Israël, si Amram et Yocheved avaient reçu la Torah, ses enfants, leur mariage aurait été interdit. S'ils avaient eu malgré tout un rapport, leurs enfants seraient des mamzerim. Et donc, de tous les côtés, ça ne peut pas vraiment exister. Naturellement, le clan Israël n'existe pas, ne peut pas exister. Mais pourtant, il existe. Oui. Alors, comment il faut essayer de le comprendre? Il faut dire que le clan d'Israël n'appartient pas au Shivim ou Mot HaOlam. Il n'appartient pas à ce qu'on appelle les 70 peuples du monde. Il a une autre réalité. Il a cette réalité que Chazal... décrivent en disant que le clan d'Israël, il est un agneau au milieu de 70 loups qui lui bouffent la laine sur le dos, mais qui ne peuvent pas le tuer. Dans les règles de la nature, ça n'existe pas. n'existe pas qu'un loup ne puisse pas manger un agneau. C'est-à-dire qu'en fait, le clan d'Israël a une réalité différente. Une réalité qui est le mala mina teva, au-dessus de la nature. C'est comme si, au moment de la sortie d'Égypte, il y a comme un morceau du le mala mina teva, de ce qui est au-dessus des règles de la nature, qui est tombé dans le monde, et ce morceau-là s'appelle Klal Israël. Et c'est ça que c'est ça qu'on veut dire quand on dit Atem Kroim Adam, vous vous êtes appelé Adam. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des êtres humains. Ça veut dire que Adam, c'est Adam Harishon qui avait il a une tâche particulière. Les Bnei Israël ont repris à leur compte cette tâche particulière. Les Oumot HaOlam l'ont pas, en tant que peuple, ils l'ont pas repris à leur compte. Ils sont donc disqualifiés comme peuple. Pas à titre individuel, les Goïms sont à titre individuel. Tout le monde peut entrer dans le clan d'Israël. Mais l'homme, après qu'il a fauté, il a fait entrer un espèce de mélange du mal. Il y a de c'est ce qu'on appelle la zohama, c'est-à-dire cette espèce de trace qui se passe là. C'est bon, merci. Merci bien. Il y a une trace du Nahash sur Hava, donc sur l'humanité, en fait. C'est quelque chose, cette Zohama, ce mélange-là. Il cache la spécificité d'Israël. Il empêche Israël de rayonner, en fait, de jouer son rôle pleinement. Mais au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a donné au clan d'Israël ces deux mitzvot de Mila et de Korban Pessah. Alors, on en a déjà parlé, les Bnei Israël étaient tellement enfoncés en Égypte, ils étaient tellement égyptiens, pour avoir une idée de leur nature, de ce qu'ils étaient, il faut se souvenir que 80% d'entre eux n'ont pas ne veulent pas quitter l'Égypte quand on leur propose. Alors, peut-être que ce n'est pas une démonstration tellement convaincante dans la mesure où, qu'est-ce que ça c'était vraiment extrêmement impensable, envisager de sortir d'Égypte, où tu veux aller, sortir d'Égypte. Ce n'est pas un individu qui va sortir, même. Jamais personne n'est sorti d'Égypte. Hazal disent qu'il y a eu une tentative de la tribu d'Éphraïm de sortir d'Égypte avant. Ils ont été massacrés, c'est tout. Et donc, ils n'avaient pas de mérite. C'est-à-dire que pour pouvoir les sortir d'Égypte, puisqu'ils étaient tellement bien mélangés au point qu'on va. La sortie d'Égypte, elle s'appelle la Lakachat lo goy mi kerev goy. Un peuple du sein même d'un autre peuple, en fait. C'est pas que Il y avait des camps de concentration ou des ghettos, etc. Non, ils étaient de plein pied, quoi, dans l'Égypte. Et donc, il n'y avait pas de mérite. Comment les sortir? Il fallait les sortir parce que si on attendait encore, il y a déjà plus que 20% qui étaient prêts à sortir. Si on attend encore un peu, il n'y a plus personne pour sortir. Bon, donc, Hachem était obligé de les sortir à ce moment-là. Même à toute vitesse. Alors, il a fallu artificiellement leur donner des mérites. Donc Hachem leur a donné deux mitzvot. Et les mitzvot qu'il leur a donné, il aurait pu leur donner n'importe quelle mitzvah. Si on veut, si ce qu'on voulait, savoir le mérite d'une mitzvah pour les distinguer, on aurait pu choisir n'importe laquelle des mitzvot. Pourquoi on a choisi d'après ces deux-là? La menace qui a été énoncée par O, à cause de beaucoup, en fait, il a choisi de traiter une menace qui menaçait le sang, mais le sang de la mort, par des mitzvot qui traitent le sang, mais pas le sang de la mort. Donc on a pris la mitzvah de la Mila, où bah, tu vas verser du sang, mais qui est un sang de vie, comme on dit, Bedomai Chayi. Et puis l'autre, la mitzvah de Koran Pessah, c'est-à-dire c'est une mitzvah où on va verser du sang, d'abord c'est du sang animal, premièrement, et deuxièmement c'est la destruction d'une idole. D'accord, l'agneau, c'est une idole égyptienne. Et le sang en question, on va l'utiliser pour badigeonner le tour de, enfin, les poteaux et les linteaux de la maison, de l'intérieur, pour se rendre conscient de ce que Hachem est en train de tuer tous les premiers-nés, mais les premiers-nés d'Ebné Israël sont indemnes. Ils sont sauvés. Hachem a préservé, il n'a pas tué, il n'a pas tué, il n'a pas laissé tuer les premiers-nés d'Ebné Israël. Donc on a traité un problème qui a à voir avec le sang, avec une mitzvah, deux mitzvot qui s'occupent du sang, en réalité. Alors, la mitzvah de la Mila et la mitzvah du Dam Pessah, donc. La Mila est là pour fonction d'enlever la Orla. Orla, c'est une espèce, un écran, c'est une fermeture, dans la version Orla Talev, c'est une fermeture du cœur, en fait. À cause de cette saleté résiduelle de la relation, enfin enfin de cette espèce de relation qu'il y a eu entre Chava et le Nahash, et le Korban Pessah, c'est en fait clarifier la notion de Beni que Béni Bechori Israël. Bon, ça veut dire pas simplement on est sorti de l'Égypte, mais on est sorti pour jouer un certain rôle. On n'est pas devenu libre au sens où on n'est plus esclave. C'était pas ça le but de la sortie. La sortie d'Égypte, elle ne se réalise que quand les Bnei Israël acceptent la Torah. C'est pour ça que c'est si proche l'un de l'autre. Bon, c'est 50 jours. Hein. 50 jours après la sortie, ils sont au Sinaï. Et donc, quand ils ont accepté la Torah, alors ils sont vraiment sortis d'Égypte. Donc, quand ils acceptent de jouer le rôle de Béni Bechori Israël. Montrer que des prorotes, il y en a plein en Égypte. Les prorotes des Bnei Israël, c'est autre chose. Ce n'est pas simplement le fait d'être né le premier enfant. C'est pour ça que il y a une halakha tout à fait particulière dans le Korban Pessah, qui n'existe pas dans les autres korbanot, qui est kol harel lo le'uchal bo. Un harel, un non circoncis, ne peut pas manger du Korban Pessah. Par non circoncis, on ne parle pas des rechaim qui ne voulaient pas se circoncire. On parle de gens qui sont hémophiles et qui ne peuvent pas se circoncire. Mais ils ne peuvent pas manger du Korban Pessah. Parce que c'est une contradiction, en fait. Si on sort grâce au Korban Pessah, en fait, sort d'Égypte. Et la Orla, c'est ce mélange du mal qui est encore là, cette fermeture. Et donc ça empêche la lumière spirituelle d'entrer dans l'homme réellement. Et tout ça, ça a eu lieu tout ça, c'est lié à la nuit du 15, du 15 Nissan. C'est un moment particulier. Les Bnei Israël sont complètement séparés et il n'y a aucun élément étranger avec eux. Ça, c'est le moment où ils sont déclarés libres, en quelque sorte. Ils ont comme ça, c'est à Hatzot. Mais les Bnei Israël, ils ne vont sortir que le matin. D'accord? Moshe Rabbeinu a dit, on sortira le matin. Et le matin, quand ils sortent, alors il y a le Erev Rav qui sort avec eux. Et donc cet état où ils étaient purs, séparés de tout élément étranger, ça n'a duré que ce petit laps de temps entre la libération effective, le Hatzot, et le matin. Et le matin, déjà, il y a des gens qui se mêlent au clan d'Israël. Le clan d'Israël n'est plus dans sa pureté au sens où il n'y a aucun non-juif, en fait, qui est avec eux. Il y a les non-juifs, il y a les Égyptiens ou autres qui se sont joints, qui sont ce fameux Erev Rav. Déjà, le paradis d'Israël qu'il avait expliqué. La nuit du 15, les Bnei Israël, il n'y avait aucune scorie, il n'y avait rien. Il restait rien de l'Égypte qui lui collait à la peau. Le clan Israël était ici dans sa Taharatam, dans leur pureté, en fait. C'était vraiment au moment de la Géoula elle-même. Mais déjà le matin, il y a déjà le Erev Rav, justement. Erev, Tarovet, mélange, qui permet et qui va même amener les Nisyonot de séduction, les obstacles, en fait, que les Bnei Israël vont rencontrer dans le désert. C'est-à-dire, les Bnei Israël ont mérité d'être dans cet état de pureté, de complètement nettoyé, totalement pur de tout élément étranger, avant que Akadosh Baruch Hu les fasse entrer par le biais de ce mélange du Erev Rav dans le désert. Ils vont dans leur pérégrination dans le désert, ils vont rencontrer des peuples. Et donc, tous les nisyonot que les rencontres vont générer. En fait, c'est ça que parodie, en fait. Rou ki ra'a neged pnechem, c'est-à-dire, moi je vois la force du mal qui va entraîner la perte chez vous dans le désert. Alors effectivement, ça n'a été possible que par le biais du Erev Rav. Le Erev Rav, il a fait naître la possibilité de Vahalem, que Hachem peut éventuellement décider de nous détruire. Quand est-ce qu'on a parlé de... Quand est-ce qu'Hachem a décidé de détruire éventuellement le clan Israël après le veau d'or? Le veau d'or, c'est en grande partie ou en totalité, était fait par le Erev Rav. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu a dit, quand il a discuté avec Hachem après cette situation, il a dit, Lama Yomru, les gens vont pouvoir dire, les Égyptiens vont dire aussi, Bera Otsiam, il les a sortis sous l'étoile Ra pour les détruire. Et du coup, mon cher Rabbeinu, par sa prière, il a retourné la situation grâce, en fait, au Dam Mila, le Dam Mila, pas le Dam Mila de la sortie d'Égypte, mais le Dam Mila de la Mila que Yoshua a imposée au clan d'Israël au moment où ils sont entrés en Eretz Israël. Rashi, sur ce verset, Rachid a expliqué que jusqu'à ce que les Bnei Israël arrivent à Gilgal, Gilgal c'était en Eretz Israël déjà, c'était l'autre côté du Jourdain, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Gilgal, le Erev Rav les empêchait, en fait, parce qu'ils pouvaient dire que y a encore la istagninout de Ra'a qui est avec eux, c'est-à-dire d'Afka le Erev Rav qui sont eux-mêmes Tarovet, comme le nom l'indique, Erev, Rav, la chante Tarovet, mélange. Mélange du mal dans le corps du clan d'Israël. Ils étaient à l'intérieur, ils étaient avec les Bnei Israël, en fait. Et c'est eux qui ont amené, comme on a dit, tous les obstacles que les Bnei Israël ont rencontrés dans le désert. C'est ceux qui ont. Qu'on a vu sur eux à Ra'a Neged Pnechem. C'est eux le Ra'a Neged Pnechem. Et à ce moment-là, avec la Mila, avec cette deuxième Mila, en fait, le Dame est devenu Dame Mila. Le Dame qui était dans la Istagninout, dans le Ra'a. La Mila elle-même, c'est l'opération qui consiste à enlever justement cette tarovette de mal dans le corps. De telle sorte que celui qui est mahoul, celui qui est circoncis, il est protégé de la force de séduction du Erevrav. Le Paradisrak aussi, il dit aussi que l'obstacle que représente le Erevrav, il va se manifester dans le clan Israël durant toute la période du désert, jusqu'au moment où ils vont arriver en Eretz Israël. Mais au moment où ils vont entrer en Eretz Israël, alors c'est un autre type de Vaït Arvou Bagoïm. Ils se sont mêlés aux Goïm. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, il y a des éléments extérieurs qui se sont joints au clan Israël. Donc, les Bnei Israël devaient se défendre de gens qui voulaient les modifier de l'intérieur. Quand ils vont arriver en Eretz Israël, paradoxalement, c'est eux qui vont se plonger parmi les goïms, il y a sept peuples là-bas, et ils vont être confrontés à ces peuples. Ils devront leur faire la guerre, mais ils sont de facto confrontés à ces peuples-là. Donc c'est eux qui risquent de s'assimiler. Jusque-là, ils risquaient d'être déformés le Erevrav, et ici, ils risquent de s'assimiler aux goïms. Donc c'est un renversement de la position entre les Juifs et les Goïms. À la sortie d'Égypte, c'est les Goïms qui entrent chez les Juifs, et quand les Israël entrent en Eretz Israël, paradoxalement, c'est les Juifs qui entrent chez les Goïms. Il y a donc un changement complet. Donc c'est un autre type d'épreuve, de danger en quelque sorte, va être Arvu Bagoïm. Ils peuvent se mélanger et donc s'assimiler aux Goïm. Mais ici, c'est la raison pour laquelle il a fallu une deuxième Mila, une deuxième circoncision, c'est-à-dire une nouvelle circoncision. Dans le désert, ils ne pouvaient pas faire la circoncision parce que il y avait les pour guérir de cette petite opération, il avait besoin d'un certain vent, disons. Et ce vent-là, il n'était pas capable de franchir les nuées de gloire qu'il y avait au-dessus du clan Israël. Donc, paradoxalement, les nuées ont empêché les Bnei Israël de faire la Mila dans le désert. Et donc, ceux qui l'avaient fait au départ, ils l'ont fait, mais après, ceux qui sont nés après, ils n'ont pas eu la Mila. Donc, quand ils vont entrer en Eretz Israël, Yoshua va les obliger à faire la Mila. C'est une deuxième Mila. C'est pas une deuxième Mila pour ceux qui on va faire deux fois la Mila, mais c'est une deuxième opération de Mila très analogue à celle qui a eu lieu juste avant de sortir d'Égypte pour pouvoir manger le Korban Pessah, pour pouvoir sortir, disons. Seulement ici, c'est une Mila qui est d'ailleurs un peu différente de celle qui a été de la première, parce que la première, c'est une Mila comme celle qui a été donnée à Abraham Avinu. La Mila d'Abraham Avinu, c'est seulement le coupé. Il n'y a pas de dégagement du gland. La prière, Abraham Avinu, il n'a pas eu la mitzvah. On dit qu'il l'a fait aussi, mais c'est pour ça que les Arabes, ils font pas ça. Ils font pas la prière. Il y a Mila et prière. La prière, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire que quand on déchire un peu la membrane, on la retourne pour dégager le gland. Cette opération-là, elle n'a pas été faite dans la première Mila, dans la Mila version sortie d'Égypte. Par contre, là, elle est faite. Donc, pour sortir d'Égypte, ils avaient besoin de la Mila. Et pour entrer en Eretz Israël, ils ont aussi besoin de la Mila. Ça fonctionne comment exactement? Ça fonctionne parce que la Mila, c'est l'opération par laquelle on enlève la Orla. Et Rashi dit, qu'est-ce que c'est Orla? Dit Aïno Atima. C'est une fermeture. C'est marqué Umaltem et Orlat le Bavchem, c'est-à-dire, ils traduisent, Otem le vavchem ve kisuyo. La fermeture de votre cœur et le fait qu'il est recouvert d'une couche de graisse, etc., qui fait que le cœur ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et on connaît aussi la traduit, Orlat le vavchem, Tipshut livchon. La bêtise de votre cœur. C'est-à-dire que le cœur, il est bête dans la mesure où il est complètement fermé, il n'est pas, il ne s'ouvre pas, il réagit pas comme il faudrait. Donc, quand ils entrent en Eretz Israël, sortant du désert, ben, ils rencontrent de nouvelles épreuves, de nouveaux nisyonot. C'est-à-dire, ça s'appelle divrei rechout. C'est-à-dire, en Eretz Israël, il va falloir travailler. Mais comment tu peux, comme dit l'Agmara, tu peux labourer pendant les labours, recueillir, enfin, moissonner à l'époque des moissons, etc., vendanger à l'époque des vendanges, et comme dit l'Agmara, et c'est quand que tu l'aimes exactement? Alors en fait, ça veut dire que quand ils entrent en Eretz Israël, ils sont soumis au Zman, au temps. C'est-à-dire, le temps s'impose à eux dans la mesure où tu ne peux pas décider que tu vas semer en décembre ou tu sèmes à l'époque où on peut semer. Et tu vas donc récolter quand on récolte, etc. Donc, le temps organisé, enfin, le temps dans lequel tu vis s'impose à toi, il t'impose des comportements, il t'oblige à vivre d'une certaine manière. Le Paraditra qui ramène un enseignement du Gaon de Vilna, qui dit que tous les kilkoulim qui ont leurs racines dans le temps, enfin, ont leurs racines dans le temps. Et c'est pour ça que la notion de galout, elle est dite en termes de temps, en termes d'années. Galout, 400 ans de galout. Et quand on parle du tikkun, de la réparation ce qui va amener à la geoula, la Géoula, ça ne se dit pas en termes d'années, ça se dit en termes de génération. C'est marqué là-bas, Abraham Avinu, Vedor Revi'i Yashuvuena. La quatrième génération reviendra. Pourquoi on ne dit pas combien d'années? Les années, c'est le Galout, c'est être soumis aux Zman. Et la Géoula, ça se dit en termes justement de génération, c'est-à-dire de l'homme. C'est l'homme, c'est... Le début de la Géoulat Mitzrayim. Comment il commence? Ça commence à Chodesh Hazelachem, c'est-à-dire le Chodesh, c'est-à-dire le temps, Le temps qui est mesuré avec la lune, donc. La Chodesh, la Chem. C'est-à-dire, Hachem leur a donné, il a donné au Bnei Israël, la maîtrise du temps. C'est-à-dire, c'est nous qui allons décider quand commence le mois, le Chodesh, et quand on ajoute, ou ben, si et quand, ben, pas quand, mais ça c'est clair aussi, mais si on ajoute un mois supplémentaire, un deuxième mois d'Adar. C'est le Beth Din qui fixe ces choses-là. Ce sont les hommes qui dominent le temps. Ça, c'était une des choses qui était absolument impensable pour les Grecs. Et vous êtes complètement fous. Imaginez que vous maîtrisez le temps. Le temps, c'est quelque chose qui est le maître, quoi. C'est la partie du destin. Quand ils sont entrés là-bas, entrant en Eretz Israël, alors, est-ce qu'ils ont vu que il y a la domination, c'est Yoshua qui domine, qui dirige, et il dirige le temps aussi. Où est-ce qu'on voit ça? Il a arrêté le soleil. Yoshua, il a arrêté la course du soleil. C'est une façon de maîtriser le temps. Eretz Israël, c'est Eretz, c'est-à-dire Divrei Reshut, c'est Ratz, on court où on veut, quoi. Mais Eretz, mais c'est Kodesh, c'est-à-dire c'est Divrei Reshut, en fait, c'est le domaine du profane, mais en fait, c'est à nous à les élever, à les sortir de cette fermeture du profane pour les élever, c'est-à-dire les sortir de la teva, de la nature, en fait, pour les élever sur la lumière qui a été créée le premier jour. C'est marqué Kitov. Bon, Vayar et Taor, Kitov. C'est marqué nulle part ailleurs. Un kitov sur une chose précise. Le kitov, c'est le contraire de ra neged penichem. Ra, c'est la fermeture. Fermeture, la nature qui s'est fermée, s'est soumise au temps, etc. Et donc, ça génère des obstacles. Et ça peut aller, ça peut nous entraîner jusque à se casser la figure d'une façon tellement terrible qu'Hachem dit, je vais les détruire. Paro, il a vu. Donc ça va amener cette confrontation, elle va amener le mal, la mort. Et Akadosh Baruch Hu a transformé ça en Dam Mila et Dam, et surtout, c'est-à-dire en enlevant effectivement la fermeture du cœur, qui elle, c'est ce qui entraîne les obstacles et le fait qu'on se casse la figure. Et quand ils sont entrés dans Eretz Israël, Eretz HaKodesh, en fait, donc ça vient en même temps que cette deuxième Mila dont on a parlé, c'est-à-dire la possibilité de vivre en Eretz Israël dans une vie qui semble être naturelle, c'est-à-dire on va labourer, etc., on va faire comme tout le monde. Seulement, on va élever cela. Ce sont les. Quand on dit Eretz HaKodesh, ça ne veut pas dire que c'est la terre qui est sainte. C'est les hommes qui vont faire, ils vont élever les choses de la terre. Mais ce n'est pas la terre en soi, elle n'a pas de doucha. Le seul endroit qui est donc là, dans la Torah où il est dit que c'est une terre sainte, c'est le Sinaï. C'est pour Moshe Rabbeinu qui était au Sinaï, au buisson ardent, c'était le Sinaï. Et bien, quand Hachem a parlé au Sinaï, le Sinaï, il était interdit pendant qu'il parlait. Mais dès qu'Hachem a arrêté de parler, les troupeaux ont pu monter. Il n'y avait plus aucune limite. Il n'y a pas de terre sainte. Elle est sainte parce que les hommes font, ils prennent des choses de cette terre et ils les élèvent. Ça commence par une trouma, une élévation. Dès le moment où ils ont fait la Mila, alors ils se trouvent au-dessus de la Hitzdagninout, du déterminisme astral. Marqué Redou Bachem Sonechem, c'est-à-dire dans les calottes, vos ennemis, c'est marqué Redou Bachem Sonechem. Et Chazal disent Mikem ou Bachem, ça veut dire il y a des gens dans le clan Israël qui essayent de remettre le clan Israël sous les règles, dans les règles de la nature, de faire du clan Israël un peuple comme les autres. Donc les enlever de ce Haor Kitov, cette lumière. Mais la Géoula, elle va arriver. C'est marqué, le et erev yéor. Même le soir, il y aura de la lumière. À ce moment-là. Ça ressemble à la première Géoula qui a commencé par la lumière. À Chodesh Hazé Lachem. Le Chodesh, c'est la lumière. Bon, c'est la nouvelle lune qui commence. Lachem, c'est vous les maîtres. C'est vous qui allez décider de ça. Donc ça veut dire la sortie de l'Égypte, c'est tout un effort, d'accord, pour sortir des lois de la nature, en fait. Le Ramban dit très clairement qu'à partir du moment où on est sorti de Mitzrayim, les lois de la nature ne nous concernent même pas. Voilà, on va s'arrêter là.
Merci Rob.
Merci Rob.